OK, nous allons commencer notre 52e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va voir ce soir le deuxième grand réveil évangélique qui a eu lieu entre 1792 et 1822. Alors, dans notre dernière leçon, on avait vu que les historiens chrétiens qui ont étudié les réveils les classent ordinairement de la manière suivante. Le premier grand réveil évangélique de 1725 à 1775, celui que nous allons voir ce soir, le deuxième grand réveil de 1792 à 1822, le troisième entre 1830 et 1847, le quatrième entre 1858 et 1898, le cinquième entre 1900 et 1915, et le sixième entre 1948 et 1950. Alors, on a étudié jusqu'ici brièvement le premier grand réveil évangélique de 1725 à 1775. On va examiner aujourd'hui le deuxième grand réveil évangélique de 1792 à 1822. Alors, j'ai voulu rappeler les différentes définitions qui avaient été offertes par des spécialistes concernant comment on peut définir qu'est-ce que c'est le phénomène des réveils chrétiens. Alors, J. Edwin Orr, qui est une des plus grandes autorités et érudit dans cette matière, l'a défini comme suit. Une effusion du Saint-Esprit sur l'Église et sur le monde. Duncan Campbell, qui est un puissant prédicateur qui a été utilisé par Dieu dans le réveil des îles Hébrides en Écosse, entre 1949 et 1952, l'a défini comme une communauté saturée de Dieu. Et Robert Lieselius, qui est un théologien et érudit, actuellement professeur au Georgia Baptist College and Theological Seminary, lui a défini comme suit. Une œuvre souveraine de Dieu, accordée périodiquement à son Église et au monde, dans le but de manifester sa gloire et sa toute-puissance, en revitalisant de façon extraordinaire la vie spirituelle de ses enfants et en convertissant de manière spectaculaire des pécheurs par la puissance du Saint-Esprit. Alors, un peu comme on avait fait dans le premier réveil, on va regarder comment était la société à l'époque, en 1792, à peu près cette époque-là, entre 1792 et 1822. Donc, quand on regarde socialement, alors, l'alcoolisme était un terrible fléau. Des études ont démontré que sur une population globale de 5 millions de personnes, plus de 300 000 étaient dominés par des problèmes de consommation excessive d'alcool. Plus de 15 000 mortalités par année étaient attribuées à l'alcool. Alors, la criminalité sous toutes ses formes était galopante. L'État du Kentucky et du Tennessee étaient considérés à l'époque comme des Sodome et Gomorre. Les vols de banque étaient nombreux. L'immoralité sexuelle régnait partout. Il y avait une profusion de maladies vénériennes dans la société. Le climat de travail dans les industries, dans les mines et dans beaucoup d'autres milieux était très dur. Et l'exploitation éhontée des travailleurs, hommes, femmes et enfants, s'observait partout. Le commerce des esclaves était florissant. Les jeux violents, combats de toutes sortes, étaient très populaires. La popularité de l'occultisme grandissait dans tous les milieux sociaux. L'esprit de rébellion s'observait partout. Les idées philosophiques athées et révolutionnaires et le rationalisme venant d'Europe trouvaient des oreilles attentives dans les milieux intellectuels. Dans les collèges et universités américaines de l'époque, on a observé des cas où des étudiants ont brûlé des édifices, forcé des présidents à démissionner, profané et moqué publiquement les cultes chrétiens et détruit publiquement des Bibles. Quant à l'arrière-plan politique, toute la population subissait l'influence des grandes révolutions. La Révolution américaine de 1772, la Révolution française de 1789 et les débuts de la Révolution industrielle de la Grande-Bretagne. Alors, l'arrière-plan religieux L'unitarisme se répandait comme une traînée de poudre. Le courant unitarien se définit comme anti-trinitaire et nie la divinité de Jésus-Christ. Selon cette doctrine, Jésus est l'homme le plus proche de Dieu, ou encore son principal prophète, mais il n'est pas Dieu. L'unitarisme rejette le christianisme majoritaire en l'accusant de ne pas être strictement monothéiste. Il trouve son origine dans les mouvements antérieurs au Concile de Chalcédoine, dont le plus connu est l'arianisme au IVe siècle. La première église unitarienne en Angleterre est créée en 1774 et la doctrine apparaît officiellement aux États-Unis en 1784 avec James Freeman. Aux États-Unis, il y avait une décroissance dans les dénominations. Les luthériens avaient dû s'unir avec les épiscopaliens. Les méthodistes avaient perdu 14 000 membres et les congrégationalistes n'avaient pas vu de nouveaux membres durant une période de 16 ans. La situation était désastreuse dans les grandes universités. Il n'y avait aucun chrétien à Harvard et seulement deux à Princeton qui se devaient de se réunir en secret. L'apathie et l'indifférence régnaient partout. Les églises semblaient vouloir mourir et semblaient ne plus faire partie des affaires des hommes. L'écrivain français avait déclaré avec arrogance dans 30 ans, le christianisme sera mort. C'est Voltaire, j'ai oublié le mot Voltaire, là. C'était l'écrivain français Voltaire. Il avait déclaré ça avec arrogance, dans 30 ans, le christianisme sera mort. Alors, le deuxième point, on va regarder les principaux réveils du leader, et les principaux leaders du réveil, deuxième grand réveil. Alors, j'ai reproduit un résumé de ce réveil qui est présenté sur le site web Sentinelle de Néhémie, sous le titre « Le deuxième grand réveil à partir de 1792 ». Pourquoi je l'ai pris? Parce que je trouve qu'il résume en peu de mots une période quand même de 30 ans avec les principales idées. Alors, ce grand réveil méconnu dura environ 30 ans et ses effets immédiats furent extraordinairement étendus. Il donna aussi une impulsion remarquable aux missions dans le monde. Ce réveil commença par un mouvement de prière en 1784, lorsque John Erskine d'Édimbourg republia le fervent plaidoyer de Jonathan Edwards pour la prière de réveil. Il portait le titre de « Une humble tentative pour promouvoir un accord explicite et une union visible du peuple de Dieu » dans la prière extraordinaire pour le réveil de la religion et l'avancement du royaume de Christ. Autrement dit, c'était le même texte que Jonathan Edwards avait utilisé à son époque. En anglais, c'était « An humble attempt to promote explicit agreement and visible union of God's people in extraordinary prayer for the revival of religion and the advancement of Christ's kingdom ». On sait qu'à l'époque, Jonathan Edwards avait eu du succès avec ça. Et il y avait eu beaucoup de gens qui s'étaient joints au mouvement de prière. Alors, les dénominations, l'une après l'autre, consacrèrent un lundi soir, chaque mois, à la prière. D'abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. Les barrières étaient énormes. Il y avait un déclin moral qui avait suivi la guerre d'indépendance en Amérique, la Révolution française, l'infidélité et le rationalisme en Europe, et partout, des assemblées en état de déchéance progressive. Les débuts du réveil peuvent être localisés vers la fin de l'année 1791 dans les villes du Yorkshire, où il se répandit à travers toutes les régions et les dénominations. Les méthodistes à eux seuls connurent une croissance numérique qui passa de 72 000 à la mort de Wesley en 1791 à presque un quart de million en l'espace d'une seule génération. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme. Dans le même temps, les églises du pays de Galles commençaient à se remplir de nouveau et des milliers se réunissaient en plein air. Les frères Haldane, Robert et James, et Thomas Chalmers, avec quelques autres, prirent part à des réveils phénoménaux en Écosse. L'Irlande aussi connut des réveils locaux, notamment parmi les méthodistes. Un des résultats remarquables de ces réveils en Angleterre fut la fondation de la Société biblique étrangère, Foreign Bible Society, la Société biblique britannique, British Bible Society, la Société des traités religieux, The Religious Tract Society, la Société missionnaire baptiste, The Baptist Mission Society, la Société missionnaire de Londres, The London Missionary Society, la Société missionnaire de l'Église, The Church Missionary Society, et une foule d'autres organismes d'évangélisation. Le réveil provoqua aussi de considérables réformes sociales. Les anglicans évangéliques endossèrent avec succès le combat pour l'abolition du marché d'esclaves. Les prisons furent réformées, les écoles du dimanche furent initiées et un grand nombre d'institutions de bénévolat démarrèrent. Dans les autres parties du monde, il se produisit des mouvements similaires. Aux alentours de 1800, la Scandinavie fut touchée et en Suisse, une visite de Robert Haldane alluma le feu du réveil parmi les églises réformées. L'Allemagne expérimenta le réveil et connut ainsi des réformes sociales durables et la faveur missionnaire. Aux États-Unis, le concept de la prière se répandait universellement depuis 1794 et avant la fin de l'année 1798, le réveil avait éclaté partout. Chaque État et chaque dénomination évangélique était touchée. Le petit-fils de Jonathan Edwards, Timothy Dwight, prit la direction de l'Université Yale en 1795 et vit plus de la moitié des étudiants se convertir en seulement un an. D'autres universités connurent avec profit des mouvements similaires de l'esprit. Or, le spécialiste, le OAR, rapporta qu'il n'y avait pas d'extravagance émotionnelle dans les réveils de la côte Est. C'était loin d'être le cas dans d'autres régions. Francis Asbury fut envoyé d'Angleterre avec Peter Cartwright et d'autres prédicateurs itinérants pour prêcher dans les frontières. James McGrady et Barton Stone furent les témoins d'un réveil stupéfiant à Kentucky en 18 ans, comportant beaucoup de tremblements, de secousses, de pleurs, de cris et d'évanouissements. En 1801, Barton Stone fut invité à prêcher à la maison de réunion de Cambridge, dans la province de Bourbon. Une deuxième visite attira 20 000 personnes qui vinrent à une réunion de camp de 6 jours, pendant laquelle se manifestèrent des scènes de réveil étonnantes. Des centaines tombèrent en même temps, tout cela avec des clameurs et des cris et beaucoup de conversions. Les réunions de camp aux frontières étaient souvent sabotées par des alcooliques et des moqueurs dont beaucoup se repentirent et se tournèrent vers Dieu. Toutes les dénominations étaient bénies par ce réveil. Une communauté complètement sans loi fut transformée en une communauté remplie de la crainte de Dieu. La Société biblique américaine, The American Bible Society, la Société des traités américains, American Tract Society, le Bureau américain des officiers pour la mission étrangère, American Board of Commissioners for Foreign Mission, et un nombre innombrable d'autres sociétés furent créées à cette période-là. Le réveil, qui commença en 1792, dura environ 30 ans, jusqu'à à peu près début 1820, mais fut très vite suivi par le réveil de 1830, qui dura 12 ans, avant de connaître une décade de déclin. Alors, le Seigneur a utilisé beaucoup de leaders durant cette période-là. Alors, on va en regarder juste quelques-uns brièvement. En Grande-Bretagne, ce fut surtout John Erskine, Robert et James Haldane, Thomas Chalmers et William Carey. En France et en Suisse, ce fut César Malan. Aux États-Unis, ce fut Charles Finney et Azael Nettleton. On va faire la différence tantôt entre les deux hommes dans leur façon de vivre le réveil. Alors, on va parler d'abord de John Erskine. On a déjà parlé de ce pasteur écossais et son rôle dans le sommaire précédent, dans ce qu'on a vu tantôt. Rappelons-nous la place que tint la prière dans la préparation de ce réveil. Ce réveil commença par un mouvement de prière en 1784, lorsque John Erskine d'Édimbourg republia le fervent plaidoyer de Jonathan Edwards pour la prière de réveil. Il portait le titre, qu'on l'a vu tantôt, « Une humble tentative pour promouvoir un accord explicite et une union visible du peuple de Dieu dans la prière extraordinaire pour le réveil de la religion et l'avancement du royaume de Christ. » À ce temps-là, il y avait des titres de documents qui étaient très, très, très longs. C'était la mode à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plus c'est court, mieux que c'est. Alors, les dénominations, l'une après l'autre, consacrèrent un lundi soir chaque mois à la prière, d'abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. Et alors, le Seigneur a béni ces prières-là de son peuple en permettant qu'il y ait des réveils dans ces coins de pays-là. Maintenant, on va parler du rôle de Robert Haldane, parce que Robert Haldane a eu un rôle extraordinairement grand. C'est un Écossais qui est parti d'Écosse, qui est allé en Suisse pour donner de la vigueur au mouvement évangélique qui était vraiment en train de mourir en Suisse. Alors, le nom de Robert Haldane est inséparablement lié à l'aurore du réveil dans l'Évangile en Suisse et en France. Robert Haldane, c'était un laïc. Son frère était pasteur, mais lui-même était un laïc. Alors, il avait travaillé dans son pays pendant 20 ans. Alors, il a entrepris en 1816, à 50 ans, une tournée d'évangélisation sur le continent. Il a passé par Paris, puis est allé à Genève, et il s'apprêtait à quitter la ville où il semble qu'il n'avait rien à faire, quand le pasteur Molinier, qui était malade la veille de son départ, le met en rapport avec un étudiant, James, pour qu'il lui fasse visiter la ville. Haldane se rend compte, au cours de sa visite, de la totale ignorance de l'étudiant quant à la Bible. Aussi décide-t-il de rester. Les condisciples de l'étudiant de la faculté de théologie rencontrent Haldane. Et le 6 février 1817, devant une vingtaine d'étudiants, il commente l'Épître aux Romains, insistant sur la justification par la foi seule. À ceux déjà nommés, il faut ajouter Frédéric Monod, le frère d'Adolphe, qui le traduit, parce que l'autre il parle anglais, puis Frédéric Monod est un français. Et par la suite, Merle d'Aubigné, qui devint célèbre grâce à sa majestueuse histoire de la Réformation au 16e siècle et au temps de Calvin, en 13 volumes, qui existe encore, et à son influence par ses sermons à la haie, sur le réveil ou la deuxième Réformation des Pays-Bas, par la conversion de Groen van Prinsterer. Alors, les étudiants ont donné leurs impressions sur cet homme-là après son départ. Voici quelque chose qu'ils ont dit par rapport à lui. « Jamais, dira un étudiant depuis François Turtin et Bénédicte Pictet, de sainte et vénérée mémoire, jamais docteur n'avait exposé le conseil de Dieu avec cette pureté, cette force, cette plénitude. Jamais si vive lumière n'avait resplendi dans la cité de Calvin. » Chose intéressante à noter, c'est que John Knox, à l'époque de la Réforme, avait décidé d'aller voir Calvin à Genève et avait été formé à Genève par Calvin. Il était retourné dans son pays. Donc, quand on regarde le mouvement de l'Écosse à Genève, maintenant, c'est un gars de l'Écosse qui part et qui vient à Genève pour rallumer le feu. J'ai trouvé ça vraiment... C'est comme le Dieu permet un retour d'ascenseur, tu sais. Alors, le deuxième point, il connaissait les Écritures, note H. Pitt, comme peut les connaître un chrétien qui a eu pour maître le Saint-Esprit qui les a dictées. Semble-t-il qu'il connaissait les Écritures sur le bout de ses doigts. C'était un homme qui avait une connaissance extrêmement profonde de la Bible. Troisième point, E. Gers, pour sa part, déclare « Robert Haldane fut la main de Dieu pour ouvrir la porte du sanctuaire. » Frédéric Monod, qui a vécu entre 1794 et 1863, le futur grand pasteur de l'Église libre de Paris, rend aussi un témoignage reconnaissant à celui qui l'a engendré en Christ par l'Évangile. Lui-même, Monod, reconnaît qu'il a été sauvé à cause de l'Épître aux Romains qui leur a été expliqué. Il dit « Ce qui me frappa beaucoup et nous frappa tous, ce fut sa manière solennelle de procéder. Il était évident qu'il s'occupait sérieusement de nos âmes et des âmes de ceux qui pourraient être placés sous nos soins pastoraux. De tels sentiments nous paraissaient à tous bien nouveaux. Ensuite, la débonnairité, la patience à toute épreuve avec laquelle il prêtait l'oreille à nos sophismes, à nos ignorantes objections, aux essais que nous faisions de l'embarrasser par des difficultés de notre invention et ses réponses à tout et à nous tous. Mais ce qui m'étonna et me fit réfléchir plus que toute autre chose, ce fut sa connaissance pratique de l'Écriture, sa foi implicite à la divine autorité de cette parole, dont nos professeurs étaient presque aussi ignorants que nous et qu'ils citaient, bien moins pour nous en référer à la source unique et infaillible de la vérité religieuse que pour relever leurs propres enseignements. Nous n'avions jamais rien vu de semblable. Maintenant encore, ajoute Monod, après un si grand nombre d'années, je me représente cet homme de haute taille, plein de dignité, environné d'étudiants, sa Bible anglaise à la main, maniant la seule arme de la parole qui est l'épée de l'esprit, réfutant chaque objection, écartant chaque difficulté, répondant promptement à toutes les questions par des citations variées au moyen desquelles il abordait et éclaircissait convenablement ses objections, ses difficultés, ses questions, et concluait bientôt d'une manière pleinement satisfaisante. Il ne perdait jamais son temps à argumenter contre nos prétendus raisonnements. Il montrait immédiatement la Bible avec son doigt, ajoutant ces simples paroles. « Regarde ici, comment lis-tu? » Cela est écrit ici avec le doigt de Dieu. Il était, au sens parfait de ce mot, une concordance vivante. Les premières réunions nous préparèrent à écouter, avec une plus grande confiance, les enseignements plus didactiques qu'il commença bientôt en nous expliquant l'Épître aux Romains, que plusieurs d'entre nous n'avaient probablement jamais lu et qu'aucun ne connaissait. Là, il faut se remettre dans le contexte que c'était des étudiants en théologie. Ils n'avaient jamais lu l'Épître aux Romains. C'était spécial. Alors, ça allait pas bien à Genève. Alors, en suivant régulièrement cette épître, il eut l'occasion de nous mettre sous les yeux un corps complet de théologie et de morale chrétienne. Cet enseignement, par la bénédiction de Dieu, qui s'y fit puissamment sentir, atteignit la conscience et le cœur de plusieurs de ses auditeurs qui, comme moi, font remonter à ce vénérable et fidèle serviteur de Dieu leur première connaissance de la voie du salut et de l'Évangile de vérité. J'envisage comme l'un des plus grands privilèges de ma vie, maintenant avancé, d'avoir été son interprète pendant presque tout le temps qu'il expliqua cette épître, étant presque le seul qui connut assez bien l'anglais pour être honoré de cet emploi. Le nom de Robert Haldane est inséparablement lié à l'aurore du réveil de l'Évangile en Suisse et en France. C'est un grand moment de l'histoire du protestantisme. Ses explications de l'Épître aux Romains ont été publiées en français. Chez Haldane, la foi implicite à l'autorité de l'Écriture va de soi. Dans son exposition, le gentilhomme écossais se montre nettement calviniste. Au chapitre 9, il y expose la doctrine de l'élection de grâce sans aucun égard pour les œuvres. Sa lettre au professeur Jean-Jacques Chenevièvre prouvera aussi, sans hésitation possible, son adhésion à la foi réformée. Toutefois, Haldane avait des vues baptistes concernant le baptême, mais il ne les a jamais mises en avant. Ça aussi, c'est remarquable parce qu'il y avait ses convictions de baptiste. Il parlait surtout à des presbytériens et ce qu'il voulait ramener à Genève, c'était la doctrine correcte du salut et il ne mettait pas le baptême entre eux de manière à créer des divisions. C'est quand même remarquable. Maintenant, un personnage qui a été sauvé par l'intermédiaire de cette exposition-là, c'est le fameux César Malin, on le voit dans nos livres de chant. César Malin, il a publié un gros recueil de chants calvinistes en français à l'époque, qui était très populaire. Maintenant, il était un peu oublié. Alors, César Malin, étant déjà consacré pasteur, n'assistait pas aux études bibliques de Haldane, mais il lui rend son tour ce beau témoignage. Cet homme grave et profondément versé dans la connaissance de Sainte Bible vint séjourner quelques mois à Genève. Je le vis chez un ami et je lui rendis visite le premier, car c'était un homme retiré, très modeste, qui ne cherchait pas ni à se faire connaître, ni à se faire écouter. Vous ne pouvez vous former une idée trop belle de la merveilleuse douceur, de la prudence réservée qui accompagnait toutes les paroles, toutes les actions de ce vieillard. En fait, vieillard, il n'avait que 53 ans, mais il portait la perruque et les cheveux poudrés comme les Anglais de sa classe de cette époque. Son visage était paisible et serein. Il y avait dans son regard une charité si profonde qu'il était impossible devant lui de juger, de condamner personne. Pour l'ordinaire, le sage Haldane attendait que je lui fisse une question et je n'allais chez lui que pour écouter ses réponses. Souvent, il me la faisait répéter afin de s'assurer qu'il avait bien compris. « Que pensez-vous là-dessus? » me disait-il. Alors, il me demandait de l'appuyer sur l'Écriture. C'est ainsi qu'il me convainquait d'ignorance ou de faiblesse. Et quand il me voyait arrêté par mon défaut de connaissance de la Bible, il commençait à m'établir la vérité en question par des passages si clairs, si formels, qu'il était impossible que je ne me rendisse pas à l'évidence. Si l'un de ces passages ne me paraissait pas concluant, il en produisait aussitôt quatre ou cinq autres qui appuyaient ou expliquaient le premier et mettaient le vrai sens hors de tout doute. Dans toute cette discussion, il ne disait que quelques mots. C'était son index qui parlait, car à mesure que sa Bible, usée à la lettre, à force d'avoir été lue et relue, s'ouvrait ici ou là, son doigt se posait sur le passage, et pendant que je lisais, lui me fixait, comme s'il eût voulu démêler l'expression que l'épée de l'esprit faisait sur mon âme. Oui. Jamais il ne m'a produit une seule opinion qui ait pu me faire supposer qu'il fût séparatiste, comme on dit. Il témoignait avec justice une grande horreur pour l'hérésie, mais je n'ai jamais rien vu chez lui qui annonçait des idées étroites ou particulières. Haldane ne poussait pas la séparation. Pourtant, la Vénérable Compagnie s'inquiète. Qu'est-ce qu'on appelle la Vénérable Compagnie ici? C'était l'ensemble des pasteurs de la ville de Genève qui étaient dans un état spirituel déplorable, ayant perdu la capacité de prêcher le véritable évangile, étant revenu au salut par les œuvres. Ils étaient dans cet état-là. Ce qu'on appelait la Véritable Compagnie, c'est quand ils ont vu que cette affaire-là arrivait et que César Malin avait commencé à prêcher, là, ça a créé tout un émoi. Ils ont voulu vraiment, ils l'ont mis dehors carrément. Et il y a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Alors, à Noël 1816, déjà, Jean-Isaac Samuel Solérier, depuis 2 ans retraité, a prêché sur la divinité de Jésus-Christ. En mars 1817, c'est le sermon de César Malin sur le salut par grâce. Malin était pasteur de l'église de Genève depuis 1810, mais c'est d'après son témoignage en 1816, l'année de la délivrance, que la lecture des épîtres pauliniennes, et en particulier Éphésiens 2, l'amena à la certitude personnelle du salut par grâce. Un jour, je lisais l'Évangile à mon pupitre dans la classe, pendant que les écoliers faisaient un devoir. Je lus le 2e chapitre des Éphésiens, et quand j'arrivais à cette parole, « Vous êtes sauvés par la grâce et non par la loi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le livre m'a semblé lumineux, et je sortis de la cour du collège où je marchais, en m'écriant, « Je suis sauvé, je suis sauvé! » Dès lors, il se mit à lire des ouvrages de doctrine calviniste, la théologie de Bénédicte Pictet, la confession de foi du synode de Dordrecht. Malin fait la connaissance de Haldane, les deux hommes étaient faits pour s'entendre. Malan a décrit lui-même dans son traité sur le conventicule de Roll l'impression faite sur lui par le pieux Écossais qui le confirma dans ses certitudes. C'est alors que le 15 mars 1817, Malan fut invité à prêcher au temple de la Madeleine, l'un des plus grands temples de la ville, devant une église bondée. Il médita sur « L'homme ne peut être sauvé que par la foi ». Emporté par son éloquence, comparant Genève à la Babylone de Nabuchodonosor, il s'écria « Si cette main s'avançait et qu'elle traça sur cette muraille l'histoire de votre vie, si ces signes véridiques révélaient ici ce que vous avez fait et pensé, loin des regards des hommes et dans le secret de vos cœurs, quel est celui de vous qui oserait y porter les yeux? Cette supposition seule ne vous fait-elle pas frémir? Et aussi ces fortes paroles contre les bonnes œuvres. Si vous prétendez, gens de bien dans le monde, selon le monde, vous rendre agréable à Dieu et finalement sauver vos âmes par votre propre justice et vous passez ainsi du Sauveur Jésus-Christ crucifié, vous êtes des orgueilleux, des insensés qui volontairement ne voyez pas que tout ce que vous pouvez faire de bien, il n'est pas fait avec foi et dans l'unique dessein de plaire à Dieu, votre Sauveur, loin de lui être agréable, n'est que péché devant lui. Ce sermon fut accueilli avec stupeur, puis avec irritation. Il rentra chez lui, couvert de mépris et accablé. Mais sur le seuil de sa porte, il rencontra Robert Haldane qui lui dit, en lui serrant les mains avec infiniment de bienveillance, « Béni soit Dieu. L'Évangile est de nouveau prêché à Genève. » Alors, bien entendu, la prédication souleva des tempêtes. Les autorités religieuses de Genève se liguèrent contre César Malan, qui paya très cher sa fidélité à l'Évangile authentique et pur. Les hommes qui furent sous l'influence de Robert Haldane jouèrent un rôle important dans le grand réveil qui allait se répandre un peu partout en Europe. Voyez-vous, un homme fidèle qui part d'Écosse, vient à Genève, prêche devant 20 étudiants qui ont été sauvés, et qu'ensuite, eux autres retournent en France, en Suisse, et un petit peu partout en Europe. Le Seigneur se sert d'un homme pour amener un grand réveil dans toute l'Europe. Moi, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, j'aimerais ça vous parler de deux hommes, Azael Nettleton, et aussi Charles Finney, qui représentent vraiment comme deux grandes écoles, deux façons de penser le réveil qui sont complètement opposées l'une de l'autre. Alors, on va voir un peu. Des fois, on se demande d'où ça vient sur les altar calls, tu sais, d'où ça vient, toutes sortes de choses qui se produisent aux États-Unis dans les grandes campagnes d'évangélisation. Ça vient de là. Alors, la tradition calviniste, qui est représentée par Azael Nettleton, lui a toujours prêché l'Évangile de manière sobre, ne pas faire d'appel aux gens de venir avant, fait avec écouter de la musique ou jouer avec les émotions. Tandis que l'autre, lui, il a vraiment toujours mis le paquet sur ça. Et ça l'a fait en sorte qu'aujourd'hui, les mœurs qu'on voit aux États-Unis, un petit peu partout, presque tout le monde aujourd'hui ont adopté les positions de Charles Finney, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement hérétiques et fausses dans sa manière d'emmener l'Évangile. Mais c'est important de voir l'origine de ces choses-là. Et ces deux hommes-là expliquent vraiment bien la différence entre les deux. Alors, pour bien comprendre les pratiques modernes et les méthodes d'évangélisation, l'on se doit de saisir l'importance et l'influence de ces deux pasteurs. L'excellent article de l'auteur Terry Crisop du site Founders, qui est intitulé « Revival and Revivalism ». Ça, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. « Revival », c'est le véritable réveil envoyé par Dieu dans sa souveraineté, et tandis que « Revivalism », c'est vraiment l'idée que les hommes croient qu'ils peuvent commander à Dieu et que Dieu va les écouter. C'est eux qui commandent, autrement dit, virent les choses à l'envers. Et il y a quelqu'un, un Anglais, Ian Murray, très connu, il a écrit beaucoup de livres. Il écrit un livre que je me propose d'acheter dès demain, Il écrit un livre sur expliquer d'où ça vient, ça, ces deux choses-là, revivalism, et il explique dans un livre de 400 quelques pages, on va en parler un petit peu tantôt, et il explique historiquement comment on peut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui et d'où ça vient, comment ça s'est établi, comment ça se fait que les églises à l'époque étaient presque toutes calvinistes, puis d'un coup, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais graduellement, l'arminianisme se réinstalle, le pélagianisme se réinstalle, les altercalls s'installent et bien d'autres choses encore. Il explique tout ça en détail dans son livre. Alors, lui, le gars dont je vous parle, Terry Crisop, sur le site founders.org, il a écrit un résumé de l'œuvre de Ian Murray qui explique la différence entre revival et revivalism. Si on voudrait faire une revivalism, je dirais que c'est plutôt la manière pentecôtiste de concevoir les réveils. Alors, si on regarde leur manière de Toronto Blessing, par exemple, pour eux, ils disent que c'est un revival. Mais lui, il explique en réalité que ce n'est pas un réveil, que c'est d'autres choses. Mais en tout cas, on reviendra là-dessus. Alors, il commente le livre, considéré comme un classique maintenant, sur les différences entre un véritable réveil amené par Dieu et le faux réveil produit par l'imagination des hommes. Les théologiens utilisent ces deux mots, « revival » en anglais, qui est un réveil amené souverainement par Dieu, et « revivalism », qui est un réveil produit par l'homme et des tactiques purement charnelles. Alors, il souligne l'importance de ce bouquin par les mots suivant. Je ne lirai pas le texte en anglais, mais je vais juste vous traduire qu'est-ce qu'il a dit. Alors, il dit, « S'il était dans mon pouvoir, » le gars qui a écrit le résumé de ce livre-là, il dit, « S'il était dans mon pouvoir d'exiger des pasteurs du Southern Baptist de lire un seul livre cette année, à l'exception de la Bible, je choisirais celui-ci. Je ne connais rien de meilleur pour provoquer la discussion sur des enjeux fondamentaux qui sont désespérément un besoin dans les milieux baptistes du Sud. Non seulement l'honneur de Dieu et la santé spirituelle des églises sont l'enjeu, mais également la destinée éternelle des âmes. Alors, j'ai mis en annexe, en anglais, je vous conseille très fortement de la lire parce qu'en 4 pages, ils font le résumé du livre de façon très bien, mais je calcule que ça vaut à peine de lire ce livre-là. Alors, j'ai donné l'image du livre. Là. L'auteur, c'est Ian H. Murray. Et c'est un livre de 455 pages qui a été publié par Banner of Truth. Alors, si on veut comprendre le monde religieux dans lequel on se trouve, si on ne lit pas ces choses-là, à un moment donné, on peut avoir des idées, mais ça, c'est vraiment, ça précise vraiment d'où ça vient, pourquoi c'est installé, pourquoi tout le monde aujourd'hui considère ça comme de l'orthodoxie de faire des altercalls, alors que ce n'était pas ça dans le temps. Comment ça se fait que ça s'est installé? Alors, en un mot, le revivalisme maintient qu'à travers des méthodes et la personnalité, une personne peut faire venir un réveil là où il va et au moment qu'il le désire. Autrement dit, l'idée, c'est que les revivalism, c'est en train de dire, moi, j'ai juste à faire des demandes à Dieu, il faut qu'il réponde, puis il va le faire au moment et à l'endroit que je veux. C'est vraiment tout centré sur l'homme. Alors que les véritables réveils sont véritablement, souverainement amenés par Dieu. Ces deux façons de concevoir les choses complètement opposées. Alors, cette idée se développa durant et après le deuxième grand réveil évangélique, lorsque des hommes tels que Charles Finney voulurent produire ces phénomènes dans leur propre pouvoir. Jamais personne ne peut comprendre jusqu'à quel point Charles Finney est important dans l'histoire évangélique américaine pour comprendre d'où viennent les pratiques actuelles en termes d'évangélisation. Si quelqu'un ne comprend pas ça, par exemple, dans les milieux pentecôtistes, c'est un homme, Charles Finney, qui est grandement respecté parce qu'il adhère à leurs idées que c'est eux qui peuvent presque commander à Dieu un réveil. Alors, le réveil, au contraire, soutient que c'est le Dieu souverain qui choisit d'étendre l'influence du Saint-Esprit à certaines époques, résultant dans des conversions massives et une croissance spirituelle phénoménale des véritables croyants. même si Dieu utilise toujours la prédication de sa parole, le phénomène n'est pas toujours prévisible puisque la personnalité, les méthodes à pression et l'hystérie émotionnelle ne changent pas le fait que le véritable réveil ne vient que lorsque le Seigneur décide de l'accorder. Alors le réveil est-il l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Ian Murray peut grandement contribuer à ce que vous vous formiez une opinion éclairée et ferme. Je vous ai préparé un tableau pour voir vraiment en opposition un côté de l'autre leurs principales idées sur le réveil. Alors, quand on regarde Charles Finney, sa théologie du salut, anthropocentrique, ça veut dire vraiment centré sur l'homme. C'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui demande. Et arminienne, sa théologie était arminienne, même s'il avait signé son adhésion à la confession de foi presbytérienne. Après ça, les jeunes ils ont posé des questions, comment ça se fait que tu as signé ça, puis tu prêches vraiment pas ça. Et là, il a patiné un peu. Pélagienne, c'est que l'homme peut choisir lui-même son salut, et aussi, ton salut est basé sur une décision humaine. Puis on sait qu'aujourd'hui, ça court les rues, ce genre de prédication-là. Mais ça vient d'où? Ça vient de lui. Alors que Azazel Nettleton, c'est un homme qui vivait à la même époque, sont rentrés en conflit l'un contre l'autre, parce qu'il y avait vraiment des méthodes différentes de prédication. Et Azazel Nettleton a toujours défendu l'idée que la théologie du salut, c'était l'œuvre du Saint-Esprit, par grâce souveraine. Donc il y avait vraiment la conception augustinienne et non pas pélagienne, et toute basée sur la souveraineté de Dieu. Alors on voit que c'est vraiment à l'opposé, l'un et l'autre. J'ai mis une colonne émotivité exacerbée. Autrement dit, à l'époque, Charles Finney commençait les méthodes de vouloir jouer avec les émotions du monde. Alors, exacerbé, c'est chercher toujours à ce qu'il soit de plus en plus émotif. Tandis que Azazel Nettleton, lui, il décourageait toute forme d'émotivité exacerbée et il dévalorisait cela. Alors que l'autre, lui, la valorisait. C'est vraiment deux approches complètement différentes. On comprend pourquoi les pentecôtistes, pour eux, c'est un héros, Charles Finney. Maintenant, leur manière de mesurer les résultats de leurs différentes campagnes. Charles Finney, lui, autrement dit, il comptait les têtes. Un peu comme on fait durant les grandes campagnes d'évangélisation moderne. Si, disons, ils font ça dans une grande aréna, s'il y a tant de personnes qui descendent, ils comptent les têtes, puis c'est avec ça qu'ils considèrent soit le succès ou soit l'échec. Alors que, par Azazel Nettleton, c'était vraiment les fruits observable dans la nouvelle vie du croyant. Alors, ce n'est pas des têtes que tu comptes si c'est des réalités de véritable conversion. Le fameux altar call, c'est comme l'appel de descendre quand le prédicateur prêche, puis descendez, puis bon, etc. Alors, lui, Charles Finney, il l'a pratiqué et normalisé. Normalisé, il a rendu ça normal, il a répandu son influence un petit peu partout dans les milieux évangéliques américains. Et il y avait une approche fortement émotionnelle. Et ça marche encore aux États-Unis aujourd'hui. Tandis que l'altar call, chez Azazel Nettleton, il n'a jamais pratiqué ça. Il prêchait l'Évangile, puis il disait jamais aux gens, si vous voulez prouver que vous êtes un véritable croyant avancé ou des choses semblables. Et il y avait une approche vraiment scripturaire. Parce que croyant, étant persuadé que c'est l'esprit qui fait le travail et non pas l'éloquence humaine ou le jouer avec les émotions. Il y a eu des études qui ont été faites quant à la durée des conversions des deux hommes. Charles Finney, on lui donnait beaucoup de conversions. Cependant, quand on évaluait après quelques années, le nombre d'abandons de ces supposées conversions était très grand. Tandis que le côté de Azazel Nettleton, évalué après plusieurs années, la plupart de ces conversions étaient réelles et ces gens-là demeuraient en place après 10, 15, 20 ans. Alors, je pense que ça donne une image un peu de la véritable... Quant aux méthodes, bien, les méthodes qu'ils utilisaient, bien entendu, étaient basées sur des présuppositions théologiques fausses. Si tes présuppositions sont fausses, en ce sens que c'est l'homme qui choisit Dieu, que ce n'est pas l'esprit qui fait le travail, etc., et que l'homme est assez bon pour choisir Dieu, mais bien entendu, dans tes méthodes, ça va se traduire. Alors, ça, c'est une vérité qui existe de tout temps. Ta théologie détermine ta pratique. Et c'est ça qui se produisait. Alors que Azarel Nettleton était strictement biblique, ses méthodes, et basées sur la compréhension correcte de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'est très important de connaître ces choses-là parce qu'on comprend plus que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Attends, tout cela nous montre dans l'histoire de l'Église combien il est important de corriger immédiatement la moindre erreur lorsqu'elle se produit. Sinon, cette erreur peut ensuite avoir des conséquences catastrophiques pour les générations suivantes. Cela doit nous faire réfléchir à notre grande responsabilité de veiller à la pureté de la doctrine dont nous sommes les dépositaires. Juste pour donner une idée de jusqu'où ça s'est étendu, le deuxième grand réveil évangélique, en Grande-Bretagne, c'était à l'époque des guerres napoléoniennes, ça s'est produit surtout en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande et en Écosse. En Europe, c'était en Allemagne, en Scandinavie, en France et en Suisse. En Amérique du Nord, en Nouvelle-Angleterre, au Kentucky, au Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord et du Sud, en Géorgie, puis dans les provinces maritimes et en Ontario, au Canada. J'ai marqué au Québec, il faudrait que je corrige. Au Canada. Mais moi, je n'ai jamais lu sur les réveils qu'il y a eu au Canada, dans les provinces maritimes, ni en Ontario, mais je serais très intéressé à lire ça. Et il y en a eu, bien entendu, à cause de les Anglais avaient déjà des rapports avec les Indes, donc ils ont amené ça aux Indes. Donc c'était quand même géographiquement un réveil qui était assez influence, beaucoup d'influence. Maintenant, les résultats, les conversions. Un exemple, les méthodistes en Grande-Bretagne passèrent de 72 000 en 1791 à 250 000 en une génération. C'est beaucoup. Aux États-Unis, entre 1800 et 1803, il y eut 10 000 nouveaux membres chez les baptistes, 40 000 chez les méthodistes. Et, juste pour vous donner une idée, Azarel Nettleton, dont on a parlé tantôt, à lui seul, parce qu'il était un prédicateur itinérant, on lui attribue 25 000 authentiques conversions. C'est énorme. Quel prédicateur au Québec rêverait pas d'avoir un résultat semblable? Les réformations, maintenant, c'est toutes ces choses-là ont produit des réformations dans les vies des chrétiens, et c'était spectaculaire. Et ça se reflétait dans absolument tous les domaines. L'assistance au culte, une vie de prière intense, un amour des Saintes Écritures, un amour fraternel authentique, des bonnes œuvres de toutes sortes. En un mot, des vies sanctifiées et consacrées. Dans les dénominations, le parti évangélique connut une influence croissante chez les anglicans. Ce fut aussi une croissance des calvinistes chez les méthodistes. Bien entendu, tout cela a provoqué aussi un esprit missionnaire, une impulsion remarquable aux missions. Il y a eu des fondations de multiples institutions chrétiennes en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure de tous les noms des Bible Society, des Tract Society, des choses comme ça. C'est suite à toutes ces choses-là que... Et ça a eu un impact extraordinaire parce que toutes ces choses-là ont contribué à ce que la Bible se répande un peu partout, des traités soient distribués un peu partout. C'est énorme, l'influence du deuxième réveil. Maintenant, il y a eu aussi des conséquences dans les collèges et les universités chrétiennes. Exemple, à l'université Yale... Donc, c'était le petit-fils de Jonathan Edwards, qui s'appelle Timothy Dwight, qui était le président. À son époque, plus de la moitié des étudiants se convertirent. La même chose se produisit dans plusieurs autres collèges et universités. Et il y a eu plusieurs collèges chrétiens qui ont été fondés. Maintenant, dans les résultats sociaux, durant cette période, il y a eu une grande baisse de criminalité et une hausse énorme de la moralité, l'éducation se développa et se démocratisa, il y eut abolition du marché d'esclaves, des réformes furent effectuées dans les pénitenciers et les prisons, les écoles du dimanche furent initiées, d'innombrables institutions de bénévolat furent créées pour les veuves, pour les orphelins, pour les pauvres, pour les malades, pour les aliénés mentaux, pour les personnes âgées. Très peu de gens se rendent compte aujourd'hui que la plupart des institutions qui existent sont des créations des chrétiens qui ont eu lieu lors des réveils. Très peu de gens savent ça. même les chrétiens, je dirais, en général. Il y a eu des résultats politiques aussi. L'influence des chrétiens fut grande sur la rédaction des documents fondateurs et dans les institutions politiques à tous les niveaux. Maintenant, les applications, on est mis trois. Louons notre grand Dieu pour sa grâce, sa miséricorde et sa bonté pour les siens, en les réveillant périodiquement et en permettant des conversions massives. Les conséquences de ces bontés de Dieu se traduisent dans tous les domaines, religieux, mission, social, économique, santé, etc. Deuxième application, apprenons que les controverses théologiques ont toujours existé et que nous devons prendre un soin jaloux du bon dépôt que le Seigneur nous a confié. Troisième application, tirons leçon des réveils du passé. Les véritables et authentiques ont toujours existé. Cependant, les contrefaçons de Satan cherchent toujours à brouiller les cartes et à contrecarrer l'avancement du royaume de Dieu. Que notre glorieux Seigneur soit loué, béni et adoré éternellement. Amen. Amen. Alors, je vous ai mis le petit article de 4 pages qui est une révision. Le gars a lu le livre, autrement dit, il donne son opinion en résumé, en sommaire. Et moi, je trouve que c'est très important de le lire parce que ça nous donne... C'est sûr que si on ne lit pas le livre dans son original, au moins important de lire un résumé. Amen.